C'est quoi, voyelle?
Voyelle,
une émission faite par des
meufs à moustache.
Des meufs à crête ou à bouclette.
Et aussi celles qui aiment cueillir les pâquerettes.
Des meufs qui ont du poil aux pattes. Celles qui bandent leur sein. Et aussi des meufs fatales, tu sais.
Celles qui t'étalent.
Celles qui minent.
Celles qui gueulent.
Celles qui ont leur mot à dire. Des guerrières à talons hauts. Et des pirates du genre.
Voyelle, c'est une émission faite par des femmes, des meufs, des gouines, des trans, des bis. Et toutes celles et ceux qu'on oublie. Pour tout le monde.
Tout le monde.
Professeur de baisse, comment, vous en avez vu d'autres? À qui vous avez demandé ça? De toute façon, à Paris, nous aimons la diversité. Il y a plusieurs façons de baiser la main. On peut embrasser le bout des doigts, le creux de la main, un seul doigt, ça fait léger et mondain, la pomme de la main, en essayant de la croquer. Là-dessus, c'est pas mal, hein, en essayant de la croquer, ça fait gentil, ça fait Adam et Ève, n'est-ce pas? Là-dessus, maintenant, le dessus de la main, en essayant de monter jusqu'au coude. Ce baisement-là, ben, c'est un peu osé. Mais permis jusqu'au coude. Hein? Bon. Maintenant, le plus beau, eh ben, c'est une main joliment donnée. Il se fait en regardant les yeux de la femme.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Canal Sud, vous écoutez Voyelle, une émission féministe en non-mixité meuf ou une trans. C'est tous les 15 jours, le mercredi soir, de 21h à 22h30.
Alors, si vous voulez nous saluer ou nous raconter ce qui vous traverse en ce moment, vous pouvez nous téléphoner dans les studios de Canal Sud au 05 61 53 36 95. Pour nous retrouver de manière différée, vous pouvez aller sur le blog de Voyelle. en tapant plutôt voyelle Canal Sud sur votre moteur de recherche, par exemple, ou encore sur le blog de Canal Sud, où vous pouvez aussi écouter l'émission en direct, et aussi sur la plateforme Radio Rageuse, qui est une plateforme d'émissions féministes d'ici et d'ailleurs. Et si vous voulez nous écrire, notre adresse mail, c'est voyellefm@riseup.net. Ce soir, l'émission va se découper en deux parties. La première partie, ça sera sur un événement qui a eu lieu à Toulouse il n'y a pas très longtemps, en novembre, qui était le Tidor.
Et une seconde partie qui sera le premier volet de notre émission thématique sur la loose. Voilà, donc il y aura des histoires.
De l'humour.
De l'émotion.
Du suspense.
Et des surprises, mais aussi...
Des rebondissements. Et on vous souhaite une bonne écoute, une bonne soirée.
Alors pour commencer avec la première partie de l'émission, donc il y a eu le 20 novembre le Tidor, Trans Day of Remembrance, qui a eu lieu. Et ce soir, on accueille des personnes de l'association Clarté-I qui ont organisé avec d'autres un rassemblement à cette occasion. Et donc, je vous laisse la parole.
Oui, voilà, on est là. Donc on a organisé pour la deuxième année consécutive donc le TIDOR, Transgender Day of Remembrance. Donc comme son nom l'indique, c'est né aux États-Unis. Mais c'est un événement qui après a lieu dans pas mal d'autres pays dans le monde. Donc l'idée de cette journée, c'est le 20 novembre, tous les ans, c'est de commémorer les personnes trans qui ont été assassinés pour cause de transphobie. Donc il y a des sites internet qui rassemblent les différents événements comme ça transphobes qui ont eu lieu dans différents endroits dans le monde. L'idée à Toulouse, c'est de pouvoir participer à cette solidarité internationale. C'est un événement qui est assez évidemment chargé et assez lourd à porter, mais en même temps qu'on trouve important de pouvoir vivre ensemble aussi. Et c'est aussi pour nous, depuis les deux fois, un peu un prétexte à faire un acte de visibilité sur cette question-là, et un acte d'existence, en fait. Et aussi un moyen de trouver du soutien, j'ai l'impression aussi, dans une envie de rassembler des gens et de rassembler des personnes alliées pour être entourées dans ce moment de recueillement. Donc je crois qu'on va écouter un montage de cet événement-là, et puis ensuite je pourrais en dire un peu plus. On a aussi utilisé le prétexte de cette journée-là pour faire valoir nos droits à Toulouse, et on en parlera un peu plus.
Voyelle.
France, inter, terre et ténèbres. France, inter, terre et ténèbres. France, inter, terre et ténèbres.
Merci d'être là pour le rassemblement du TIDOR, donc le jour de commémoration des personnes trans assassinées par transphobie, qui a lieu dans plein de pays et de villes du monde entier à cette date-là, le 20 novembre. Et donc nous, on a organisé ça avec la commission Trans d'Arc-en-Ciel, on est Clarté-I, et on a aussi préparé une prise de parole donc, pour ce soir. On a proposé que d'autres personnes, des individus ou des collectifs ou des associations prennent aussi la parole. Donc ça suivra. Le 20 novembre est la journée mondiale du souvenir trans. Célébrée en France depuis 2004, c'est une possibilité pour nos communautés de se rassembler pour commémorer les morts de centaines de personnes trans et genderqueer dans le monde, tabassées, tuées par la transphobie, la misogynie, le racisme et l'homophobie. Car en effet, une grande majorité de ces meurtres sont commis sur des femmes trans racisées, parfois travailleuses du sexe. Durant les 12 derniers mois, 325 personnes trans et genderqueer ont été reportées assassinées mondialement. Nous vivons en tant que personnes trans et ou de genre non conforme dans cette société patriarcale, cisnormée à dominance hétérosexuelle, qui prône comme arme de reproduction la complémentarité des sexes, perpétue tout un bagage de stéréotypes réaffirmant sans cesse une dynamique oppressive, non seulement envers les femmes, mais envers toutes les personnes minorisées sexuelles ou de genre, qui ne se retrouvent pas dans le modèle de force et de violence surreprésenté de l'homme blanc cis hétérosexuel. Ces derniers, de façon systémique, sont les agresseurs des femmes, des hommes et des autres personnes trans. Nous parlons toujours en tant que victimes, mais quand est-ce que la peur va changer de camp? En France, il n'y a aucune loi qui protège les personnes trans contre les discriminations transphobes. Le terme de transphobie n'est inscrit sur aucun texte. Cela fait plus de deux décennies que les personnes trans en France réclament le droit à un changement d'état civil libre et gratuit, à un accès décent aux soins sans psychiatrisation ni injonction médicale. Après des années de militantisme et de prise de conscience, les lois de 2016 ont fait avancer les choses. Plus besoin d'opération pour changer de sexe à l'état civil, donc plus besoin de stérilisation. Possibilité de rester marié, de transitionner si on a des enfants. Facilité pour changer de prénom, possible maintenant dans la plupart des mairies. Ce qui est un pas important qui facilite concrètement la vie des personnes trans. Les lois bougent, mais sur le plan social et sociétal, absolument rien n'est fait. Il faut des formations, de l'éducation, une révolution profonde de ce système patriarcal.
Malgré une facilitation de ces processus, nombreuses sont les discriminations dans les institutions, ainsi que les difficultés administratives, parfois transphobes. Cela fait des années que les personnes intersexes militent contre les mutilations médicales. L'État nous refuse toujours notre autodétermination, c'est-à-dire pouvoir dire nous-mêmes qui on est et ce que l'on veut. La Cour européenne des droits humains a condamné plusieurs fois la France pour son manque d'avancée et son mauvais traitement en ce qui concerne le droit des personnes trans et intersexes. L'isolement, le rejet, les violences se perpétuent parce que la loi, ça ne suffit pas. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour réclamer une protection, une reconnaissance des meurtres et des violences transphobes. Cependant, on ne peut s'arrêter aux attaques physiques, car la vie est oppressive sous beaucoup d'aspects pour les personnes trans et ou intersexes. À l'école, au travail, en famille, dans la rue, nous sommes en permanence exposés à des violences, à de l'incompréhension et à du rejet. Les brimades, insultes, violences physiques, viols, maltraitances médicales, différences de conditionnement carcéral, meurtres font partie du quotidien de notre communauté. La plupart d'entre nous vivent en dehors du système ou alors l'affrontent tous les jours la boule au ventre. Les personnes trans sont souvent précaires car elles accèdent plus difficilement aux études et à l'emploi. Les personnes trans, travailleuses du sexe et migrantes sont particulièrement exposées aux violences policières cautionnées par l'État français. Les frontières tuent, y compris les personnes trans et inter. Les personnes trans se retrouvent fréquemment dans un isolement relationnel fort, que ce soit amoureux, sexuel, amical ou familial. Cet isolement affectif est aussi une violence, puisqu'il conduit à une mésestime de soi et à des prises de risques accrues. La prévalence du VIH est plus élevée chez les personnes trans, et presque un tiers des personnes trans a déjà fait une tentative de suicide. Deux tiers y pensent régulièrement. Oui, notre santé, y compris notre santé mentale, est un enjeu communautaire urgent.
Les personnes intersexes sont toujours mutilées en France. Lorsqu'à la naissance, les organes génitaux d'un enfant ne correspondent pas aux normes mâles ou femelles, les médecins s'arrogent le droit de réassigner l'enfant à un sexe en pratiquant des opérations chirurgicales lourdes de conséquences sur la sexualité de leur patient. Ces opérations chirurgicales ont lieu sans qu'il y ait de nécessité médicale de les faire, sans que le pronostic vital ne soit engagé, uniquement parce qu'il semble impensable dans cette société que la norme de sexe binaire ne s'appuie pas sur une réalité biologique. Les parents sont le plus souvent désinformés et suivent l'avis de ceux et celles qui la considèrent comme des experts. À l'heure actuelle, des personnes trans et intersexes meurent. Meurent d'un manque de soins, meurent de désinformation, meurent de violence, meurent de désespoir, de dépression, d'isolement. Nous sommes tous et toutes les survivantes de ce système qui nous pousse en marge de la société. Au-delà d'une commémoration, aujourd'hui est l'occasion d'affirmer que nous sommes toujours là, que nous continuerons à lutter, que nous n'oublierons pas notre histoire, nos mortes. C'est pourquoi il est important de nous retrouver entre personnes trans, intersexes, personnes en questionnement, non-binaires, personnes cis, nos alliés, nos soutiens, pour commémorer, discuter, se renforcer, s'entraider, s'apporter de la chaleur et des forces afin de continuer à lutter contre cette société patriarcale, sexiste, transphobe, raciste et homophobe. C'est aussi pourquoi nous allons déposer un courrier tout à l'heure, tout ensemble, à la CPM 31, qui doit s'expliquer sur les ALD arbitraires, les refus d'ALD arbitraires et psychiatrisants qu'elle octroie régulièrement aux personnes trans. L'ALD permet à des personnes trans d'avancer dans leur parcours de soins en voyant leurs frais de transition remboursés au moins partiellement. Bien qu'accordée ou refusée par des institutions transphobes pour des motifs transphobes, elle est un enjeu financier important pour beaucoup de personnes trans. Les refus et la birate administrative que nous voyons en ce moment dans diverses CPAM conduisent tout simplement à de l'isolement, à de la précarité et potentiellement à des suicides. Nous vous invitons à lire et signer notre courrier si vous ne l'avez pas déjà fait. Cicatriser, assassiner, suicider, vos violences tuent, nos luttes sauvent.
Les violences tuent, nos luttes sauvent. Les violences tuent, nos luttes sauvent. Les violences tuent.
ce jour du souvenir trans, l'association Chrysalidis souhaite rendre hommage à toutes les personnes trans assassinées et plus particulièrement aux travailleuses du sexe. En effet, celles-ci subissent plusieurs stigmates, à la fois celui de pute et celui de trans, et souvent celui de migrante. Ce qui en fait la population la plus précarisée et la plus exposée aux violences institutionnelles, aux agressions physiques, aux viols, etc. Suite à la loi de pénalisation des clients et aux arrêtés municipaux interdisant la prostitution dans certains quartiers de Toulouse, on observe une précarisation et une dégradation des conditions d'exercice du travail du sexe. Les politiques répressives rendent le travail plus difficile. D'une part, car elles exposent les travailleuses du sexe trans aux agressions. Celles-ci se voient poussées à travailler dans des endroits toujours plus isolés et non sécurisés, où elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour assurer leur protection. D'autre part, elles exposent les travailleuses du sexe trans aux contaminations VIH. En effet, les politiques actuelles entraînent une baisse de revenus pour les TDS trans. La raréfaction des clients, les pressions policières et l'exposition aux agressions de rue a pour conséquence de réduire leur pouvoir face aux clients qui exigent de plus en plus des pratiques non protégées. L'association AcceptST constate une forte augmentation des contaminations VIH chez les trans travailleuses du sexe. Pour maintenir leurs revenus, elles se déplacent régulièrement de ville en ville et pour celles vivant avec le VIH, les interruptions de traitement sont fréquentes et ont des conséquences dramatiques sur leur santé. Enfin, les personnes trans qui voudraient arrêter le tapin voient leur accès à un travail plus formel, plus que restreint au vu des discriminations à l'embauche. Aujourd'hui, il est important de dénoncer toutes ces violences et ces discriminations institutionnelles pour que la vie des trans travailleuses du sexe ne soit plus passée sous silence. Aujourd'hui, il est nécessaire de rappeler que seule la lutte contre toutes les discriminations permettra aux trans travailleuses du sexe d'être reconnues dans cette société et d'avoir pleinement accès aux droits, à la santé, au travail et à un logement décent. Aujourd'hui, nous en avons assez que les morts de nos collègues se succèdent dans l'indifférence générale et nous exigeons que justice soit faite.
Du coup, on vous propose un petit temps de recueillement. On a toujours du coup la distro avec des ressources et du vin chaud et du thé. Si d'autres personnes veulent se sentir de dire quelque chose à un moment, de la manière dont ils le veulent, le micro reste là et il est possible de le prendre. Et du coup, après ce petit temps-là, une dernière prise de parole. On va tous et toutes se diriger vers la CPAM où du coup le courrier dont on vous a parlé sera déposé.
Ok, et ben, on va peut-être faire peut-être une minute de recueillement. On avait une liste, il y a toute une liste de prénoms, de noms, de personnes qui ont été assassinées cette année. Il y a donc 325 personnes qui ont été assassinées pour cause de transphobie cette année. On va pas faire la liste de noms parce que c'est vraiment très plombant et on en a assez, je pense. Mais elles sont là et c'est sur le site du TGEU, tgeu.org, c'est Transgender Europe. Et ils ont un site spécial par rapport au TIDOR, donc vous pouvez aussi trouver les ressources là-bas.
Pour rappel le problème à tous et à toutes, la CPAM 31, c'est celle qui héberge les médecins conseils de la sécurité sociale. C'est eux qui sont chargés d'accorder, oui ou non, nos ALD pour que nos frais de transition soient pris en charge par la Sécu. Ils le font selon des motifs transphobes et on a beaucoup de récits et de retours de refus de ces demandes d'ALD sur des motifs transphobes. Merci à tous et à toutes d'avoir signé cette pétition et on va du coup déposer désormais cette pétition dans leur boîte aux lettres. Et on vous remercie à tous et à toutes d'être venus et en espérant vous voir sur nos autres mobilisations.
Violence-tu ? Non, lutte, sauve ! Reviens, lance-tu ! Non, lutte, sauve ! Reviens, lance-tu !
Voilà, du coup, donc lundi 20 novembre à Toulouse, il y a eu une première petite marche pour le droit des personnes trans. Moi, ça, j'en suis quand même assez fière parce que pour l'instant, les marches pour les droits des trans ont eu lieu uniquement à Paris et du coup, il commence à y avoir quand même plus d'organisations qui sont faites pour nous visibiliser, et pour qu'on se rassemble et pour qu'on soit plus fort et plus forte et tout. Et voilà, là, il y a eu une petite marche donc, entre la place du Puy et la CPAM pour aller déposer le courrier. On était, je dirais, bon, j'ai entendu 80. Voilà. Ça doit être autour de 80 personnes, je pense. Donc, c'était pas complètement ridicule, et même s'il faisait nuit et froid, mais on a... On a quand même, on s'est quand même rassemblés devant la CPAM et c'était assez fort symboliquement de pouvoir déposer ce courrier, donc écrit, rédigé par Claire Théi et Arc-en-Ciel Toulouse. Donc deux associations solidaires pour confronter la CPAM sur des refus de dossiers d'ALD donc qui permettent le remboursement des parcours. Et dont je pensais peut-être vous lire un petit extrait. Donc, depuis plusieurs mois, les associations de personnes trans ont reçu sur Toulouse des appels à l'aide et des témoignages précis quant à des refus d'obtention des exonérations du ticket modérateur au titre de l'ALD31, malgré des dossiers correctement remplis par leur médecin traitant. Donc, après compilation de ce qui nous est rapporté, il apparaît que les refus de prise en charge relèvent d'interprétations personnelles des médecins conseils. En effet, à dossier égal, certaines demandes sont acceptées et d'autres refusées, sans aucune explication. Ces refus s'avèrent ainsi aléatoires et seul l'arbitraire ou d'obscurs motifs guident ces décisions inéquitables. Donc, nos associations sont choquées de constater des arguments avancés quand ils le sont pour justifier ces refus. Certains médecins conseils subordonnent l'acceptation à une obligation de diagnostic par un médecin psychiatre, ou encore ils demandent qu'il y ait un délai d'observation en vie réelle supérieur à 2 ans, avec la preuve d'un suivi pluridisciplinaire ciblé durant cette période. La majorité de ces exigences en fait apparaissent calquées sur les critères établis par la SOFECT, donc la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme. C'est une association qui s'autoproclame expert, qui ont formé des équipes dans les hôpitaux. Elle a été créée en 2010 en tant qu'association, mais elle existait avant. Enfin, cette forme pluridisciplinaire existait avant et ils cherchent encore à obtenir la mainmise sur les questions de santé transidentitaire en s'opposant en fait systématiquement aux revendications des associations des personnes concernées. Et ils légitiment ainsi les violences médicales, physiques, psychologiques et sociales que subissent les personnes trans. Donc ces refus sont équivalents à des remises en question des diagnostics établis par des médecins généralistes prescripteurs et de leurs compétences. Donc nous, à Claire Théi et puis avec Arc-en-Ciel, on a envie de pouvoir mettre en place des protocoles de soins qui sont alternatifs à la SOFECT, parce que leurs pratiques sont super strictes et en fait correspondent pas à notre diversité, j'ai envie de dire, et au fait que depuis le 8 février 2010 en France, la transidentité est sortie du cadre des maladies mentales. Elle a été déclassée des troubles psychiatriques. Donc en conséquence, la transidentité n'est plus répertoriée ni considérée comme une maladie mentale et donc ne peut plus légalement faire l'objet d'une demande d'attestation psychiatrique ou de certificat de transsexualisme. Donc en réclamant... De fournir ces attestations, en fait, la CPAM, elle se met hors la loi. Donc, c'est ce qu'on leur dit dans la lettre. Et c'était assez fort de pouvoir déposer cette lettre qu'on a mis en pétition en ligne 5 jours avant, plus les signatures sur place. On avait plus de près de 240 signatures, je pense. Donc, on attend de leurs nouvelles.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver cette pétition en ligne? Non, tu sais pas.
Sur notre page Facebook. Ouais, okay. Ouais, donc on a Claire Théi. Okay. Donc page Facebook Claire Théi, on a fait un post que vous pouvez retrouver. Okay. Et qu'on peut ajouter, ouais, effectivement, par la suite.
Et est-ce que tu veux dire 2 mots un peu plus de cette association, la Claire Théi à laquelle tu appartiens, peut-être pour donner des personnes qui ne connaîtraient pas du tout. Ouais.
Donc on est encore une jeune asso, j'ai envie de dire, parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. Du coup, on est encore en train de se mettre en place. Mais là, depuis la rentrée, on a un rendez-vous régulier de permanence à l'espace des diversités les derniers mercredis de chaque mois à 17h30, de 17h30 à 20h. Du coup, on en revient là. Et c'est des moments plutôt chouettes que je trouve assez riches. Il y a pas mal de personnes présentes. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu de se rencontrer et puis de se renforcer et de partager nos vécus et tout. Évidemment, partager des stratégies ou des contacts aidants à nos parcours. Et puis après, par ailleurs, on participe à des manifestations féministes. Enfin voilà, on est une association qui se définissant aussi comme féministe et du coup à réfléchir à ces questions de dynamique de genre et tout, aussi qui se reproduisent chez les personnes trans et intersexes. Et depuis peu, on a rajouté le I à Clarté aussi, Clarté I, parce que à Toulouse, il n'y a pas encore de groupe, de collectif ou quoi, qui lutte pour les causes intersexes. Et comme ça nous touche et qu'il y a quand même pas mal de liens à faire, de similarités entre les parcours, même s'il y a aussi beaucoup de différences, pas forcément les mêmes violences médicales, etc. Mais donc nos permanences sont ouvertes aussi aux personnes intersexes, et notre association l'est aussi. Et après quoi, dans le futur, on a envie de faire des trucs aussi un peu créatifs, aussi du sport ensemble, aussi il va y avoir un stage d'autodéfense trans, probablement fin janvier. Voilà, on essaie de créer des espaces comme ça, pour les personnes trans, pour les personnes intersexes. Et... Donc il y a la Clarté, on a à la fois le pôle... de juste créer des espaces ensemble, de plus de convivialité, relations humaines et tout, des isolements du coup, et puis plus le pôle militant et de faire valoir nos droits et tout ça, mais après on fait au fur et à mesure quoi, au fur et à mesure des besoins et tout ça.
Ok.
Mais il y a des choses très positives quand même qui sont sur Toulouse, j'ai envie de le dire, par rapport au réseau associatif qui existe déjà et aussi au réseau de santé communautaire, de professionnels de santé. Et du coup, petit à petit, on a des contacts qui sont intéressants. On va voir quelle énergie, quelle force on a pour continuer. Quoi.
Ben, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et on en reste là ? Ouais.
Ben ouais, merci.
Et eh ben de rien, avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Voilà.
Ouais. Et donc il y a une page Facebook, n'hésitez pas à aller regarder. Sans transition, je dirais, on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission et vous allez voir, j'en dis pas plus, plein de découvertes et la musicale pour le moment. C'est parti.
Y'a mon vieux chien qui est mort juste le jour où j'ai pas gagné au loto.
La vie c'est nul, la vie c'est nul.
Y'a mes poils de nez qui dépassent sur les photos où j'ai pris 3 kilos.
La vie c'est nul, la vie c'est nul, la vie c'est nul.
Ce matin au réveil,
la vie c'est nul.
J'ai shooté dans mon lit,
la vie c'est nul.
Avec le petit orteil,
la vie c'est nul.
Ça fait mal à la vie, y'a des jours où on ne voudrait rien faire dès que le radio réveil sonne.
La vie c'est nul. La vie c'est nul.
C'est toujours quand je suis nu sous la douche qu'il y a quelqu'un qui téléphone.
La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul.
En mettant du parfum,
la vie c'est nul.
Je m'en suis mis dans l'œil,
la vie c'est nul.
Depuis je ne vois plus rien,
la vie c'est nul.
Mais je sens bon de l'œil,
la vie c'est nul.
Je me suis mise au régime,
la vie c'est nul.
Il y a 3 semaines,
la vie c'est nul.
Je fais pile le même poids,
la vie c'est nul.
Il y a 3 semaines. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine d'aventures, vivre dans un manoir, avoir une grosse voiture, porter des robes du soir qui coûtent des millions. Oui, mais la vie c'est nul et ma robe en coton. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine de mystères, le jour être rockstar et la nuit justicière, avoir un majordome, un amant milliardaire. Oui, mais la vie c'est nul. Et je suis célibataire. Y'a des gens qui trouvent des mots de 9 lettres ne comportant que des voyelles.
La vie c'est nul. La vie c'est nul.
Depuis que je me suis fait poser des faux ongles, j'ai dû acheter un lave-vaisselle.
La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul.
J'ai loupé le casting.
La vie c'est nul.
Pour être mannequin.
La vie c'est nul.
Parce que j'ai oublié.
La vie c'est nul.
De prendre un maillot de bain.
La vie c'est nul.
J'ai mis un Wonderbra.
La vie c'est nul.
Et des boucles d'oreilles.
La vie c'est nul.
Et tout le monde ne regarde.
La vie c'est nul.
Que mes boucles d'oreilles. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine d'aventures, vivre dans un manoir, avoir une grosse voiture, porter les robes du soir qui coûtent des millions. Oui, mais la vie vie c'est nul.
Voyelle.
Bah, du coup, j'avais 8 ans et je suis partie en colonie de vacances. Et c'était à la campagne, tout ça. Il y avait des grandes tentes où il y avait plein de lits de camp pour les enfants, comme ça, on était en grande tente. Et il y avait mon sac et tout à côté de mon lit, ma main. Et on était, on faisait des activités, je sais plus lesquelles. Et à un moment donné, j'ai eu trop envie de faire caca. Mais vraiment hyper intense. Et du coup, j'ai couru très très vite, mais avant d'atteindre les toilettes, bah, je me suis chiée dessus. Et vraiment grosse chichi, tu vois, le caca liquide qui coule partout dans ta culotte et tout, tu vois. Et je me suis dit, bah merde, il faut que j'aille me changer. Du coup, discrètement, je suis allée jusqu'à la tente où il y avait mon sac et tout ça. Du coup, j'ai enlevé mon fut, j'ai enlevé ma culotte. Et là, bah, j'ai mis ma culotte pleine de caca dans mon sac. Et du coup, bah, j'ai mis de la merde partout dans mon sac et sur toutes mes affaires. Et j'ai méga stressé, j'ai pas réussi à reprendre une culotte propre. Bref, j'ai remis mon fut et je me suis dit, bah, il faut que j'aille laver toutes les affaires de mon sac qui sont pleines de merde. Et du coup, là, j'ai mis mon sac sur mon dos et il y avait une petite rivière qui passait pas hyper loin. Et je me suis dit discrètement, tu vois, je vais aller toutes mes affaires à la rivière. Et en fait, quand je suis sortie de cette grande tente avec mon gros sac à dos, bah, là, il y a la monitrice qui m'a appelée. Je me suis retournée et en fait, il y avait tous les enfants et tous les monos qui me voyaient avec mon sac. On dit « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» Et c'était un peu la honte. J'ai pas réussi à laver mes affaires pleines de caca, mais voilà, la monitrice, elle est venue me voir, elle était trop cool, et puis on a fait des lessives et ça allait bien. Elle m'a pas affichée.
Et tu voulais pas changer ton prénom pour la chronique ?
Non, ça va, j'assume cette loose, hein. J'avais 8 ans, je le rappelle. Depuis, j'ai toujours la chiasse, mais j'arrive aux toilettes avant.
Voyelle.
Vous écoutez toujours Voyelle sur Canal Sud et on a écouté une première loose inaugurale sympathique. Et juste avant, on a écouté un morceau, c'était La vie c'est nul de la fanfare de la fatalité.
Vous l'avez donc compris, on est dans la deuxième partie de l'émission. On a décidé ce soir de parler de la thématique de la loose. On en avait très envie et on s'est trouvé beaucoup de raisons pour faire cette émission-là.
Comme par exemple, c'est l'hiver, il commence à faire bien bien froid, tout le monde commence à être pas forcément au top. Alors on s'est dit, autant aller au bout du fond du bout du seau. Enfin, du fond du seau. On s'est dit aussi que pour une émission de rentrée, novembre, c'était assez la loose. Mais donc voilà, de plutôt foncer en termes de loose.
Oui, parce que c'est vrai que c'est notre émission de rentrée. On a passé toute une année à... Bah, pas trouver l'énergie pour faire de nouvelles émissions. Voilà, c'était la loose, on n'avait pas d'énergie. C'était la loose, on n'avait pas d'énergie. Et puis, deux nouvelles personnes sont arrivées dans l'équipe Voyelle. Et pour se rencontrer, et pour une première thématique d'émission, on s'est dit, quoi de mieux que de se raconter nos looses ? Ça nous permettrait peut-être de briser la glace, de se sentir à l'aise à l'antenne, tout ça, tout ça. Voilà, on en est là, quoi. On vous propose une émission sur la loose. A priori, on devrait vous définir un petit peu ce concept-là de loose, mais en fait, nous-mêmes, on n'avait pas tant idées et on ne savait pas trop comment définir tout ça. Donc, on a enquêté. On a enquêté longuement, hein, sachez-le. On a été demandé à des personnes autour de nous de nous raconter leur loose pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une loose. On a cherché des musiques aussi qui parlent de loose, parce que bon, bah, la musique, ça dit des choses normalement, paraît-il. On a eu de longues discussions nous-mêmes sur la loose.
Sur nos propres looses internes, mm-hmm, à partager.
Et puis on a aussi farfouiné dans des textes pour essayer de voir qu'est-ce que nous dit la littérature sur la loose. C'est donc tout ça que vous allez entendre aujourd'hui. Welcome.
À Voyelle, en cette rentrée 2017, un soir en mangeant des chips, on s'est penché sur le concept de loose. C'est quoi une loose ? Pourquoi y a-t-il des looses drôles et d'autres pas ? Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de loose ? À partir de quand une anecdote devient-elle une loose ? Et ça a donné ça. Thank you.
À côté des chips.
À côté des chips. On se dit qu'on arrête à 21h, c'est ça? Bon, du coup, si on veut faire une définition de la loose.
Mais c'est comme s'il y avait deux looses différentes, il y a une espèce de loose d'ambiance. Genre une loose globale liée à l'identité, ou voilà, plein de mini-looses quotidiennes. Et puis il y a des grosses looses, des événements de loose. Enfin, j'ai l'impression qu'on raconte des trucs comme ça, qu'il y a, ouais, il y a, ouais. Il y a une loose de vie et des looses d'événements.
Événementiel.
Ouais. Je voulais pas dire événementiel.
Ah oui, moi j'avais pas pensé aux looses de vie, aux looses constantes là. Mais c'est vrai.
Mais peut-être quand même dans les trucs de loose, il y a un truc du coup de. Tu dois un moment te poser la question de est-ce que c'est dissible ou pas sur le moment.
Ouais.
Enfin, que c'est ça qui fait la loose de genre soit t'assumes grave et tu dis putain, désolé, j'ai pété. Enfin, soit ouais. Si tu dis. Enfin, mais t'es obligé de te poser cette question et oui. Ça fait partie de la loose. Peut-être
mais le truc de est-ce que je vais.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai qu'il y a le truc de honte en fait. Mmh. Le truc de honte quoi. Genre même si c'est pas grave, c'est t'as l'air un peu con, c'est genre t'es un peu genre un peu trop en dehors de la norme ou un peu trop décalé ou que je pense qu'il y a plein de gens ils s'en rendent pas compte ou quoi, mais toi-même t'as l'impression que c'est un énorme truc quoi et que tout le monde te regarde.
Mais du coup vous rentrez pas dans la loose les histoires tragiques de nos vies quoi.
Ben moi je pense que ça dépend comment toi en fait personnellement t'arrives à en tirer quelque chose de drôle en fait. Parce que je pense qu'on peut rire de trucs hyper graves, mais c'est après c'est chacun quoi. Moi je me verrais pas par contre rigoler par exemple si tu me racontes un truc hyper tragique de ta vie et que t'en rigoles parce que tu trouves quelque chose de comique, bah enfin je vais t'accompagner parce que c'est ton histoire. Après si tu me racontes un truc hyper tragique, bah, ah putain c'est trop drôle.
C'est pareil avec les petites histoires de loups entre guillemets. C'est parce qu'on a envie que ça nous fait rire. En vrai, même des trucs d'enfant ou quoi, si ça nous reste encore comme un truc hyper dur, ça va faire rire personne.
Oui, c'est sûr, ouais. Après, bon, comme là, du coup, on est un peu entre nous et que c'est bienveillant et tout ça, peut-être que. Enfin, tu vois, on se pourrait plus s'autoriser quand même sur des trucs qui paraissent vraiment pas très graves de trouver que c'est drôle parce que ça désamorce et. Enfin, je sais pas.
Et tu dis t'es loose maintenant, tu pèses moins que t'es loose d'avant.
Ouais, je pense moi, enfin je sais pas comment dire. J'ai l'impression que je suis plus. Tu vois, il y a ce truc où c'est bah déjà plus. Je sais pas, qu'on s'en fout un peu plus des normes sociales ou je sais pas quoi parce qu'on a on a pris l'habitude de. Bah de négocier avec pendant la vie quoi. Tu vois que ce sont pas comme c'est pas comme celle du collège ou j'en sais rien, enfin moi les normes sociales elles me pèsent beaucoup moins, enfin je sais pas comment dire, je m'en fiche beaucoup plus et plus je vieillis plus je m'en fiche en fait. Moi je comprends les vieux, enfin je sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de vieux qui au bout d'un moment ils s'en foutent vraiment de tout.
Ouais,
il y a des vieux
les gens
ouais, tout, ouais ouais c'est ça ouais, moi j'ai l'impression d'avoir parlé avec des vieux de ma famille qui en avaient qui en au final plus rapprochés de la mort ou je sais pas quoi ou de la fin ou je sais pas quoi bah plus ils en avaient rien à battre de trucs qui avaient de l'importance pour eux, que ça pouvait être les pires réacs du monde, qui voulaient les pires choses pour leurs enfants et tout ça, enfin j'en sais rien, dans des trucs hyper de normes et tout, puis en fait ils vieillissent et puis en fait ils sont vieux et puis ils ressemblent plus à rien et puis de toute façon ils vont mourir, alors du coup ils s'en foutent de tout, enfin j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de truc aussi que plus tu vieillis plus un peu des trucs.
Ouais, bah ouais, je trouve que y a certaines looses qui te touchent moins. Je pense par exemple de tomber devant tout le monde. Ouais. Tu vois des trucs.
Oui, bien sûr.
Par contre, je pense, par exemple, aujourd'hui, moi par exemple, si je faisais une grosse loose politique, tu vois, par exemple, tu dis un truc qu'il faut pas dire.
Ouais.
En fait, c'est tout. Ça, je pense que c'est pareil qu'au collège. Je pense que tu te sens vraiment la plus grande des merdes. Ouais. Tu vois, c'est juste que ça se déplace, quoi.
Oui, mais par rapport au collège, tu sais plus te dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai merdé » ou je sais pas quoi. Enfin, qu'au collège, tu te disais juste « Putain, je l'ai poussé dans l'escalier. »
Tu vois, aujourd'hui, où ça peut quand même avoir des conséquences sur ta vie sociale un certain temps, et que, par contre, tomber par terre... glisser, tu vois, enfin... t'as l'air con, 5 minutes, tu peux te faire mal éventuellement, mais... Tu vois, ça n'a pas un impact.
Mais il y a peut-être un truc aussi de... On va avoir moins honte de trucs qui ont une conséquence que sur soi. Genre, quand on tombe, on risque de se faire mal qu'à soi. Si on dit un truc pas cool en public, on risque de faire du mal à des personnes, en fait. Et ça, c'est des situations où je vais avoir beaucoup plus honte et où je vais avoir du mal à... trouver que c'est une loose et en rigoler. Parce que des fois, bah, c'est... ça peut ne pas avoir été marrant pour des personnes. Oui.
Et que j'ai l'impression que dire un truc politique qui blesse des gens, c'est plus une boulette ou je sais pas. Pour moi, c'est pas une loose, ça serait plus.
On pourrait faire une émission boulette du coup.
En fait, moi je me disais, enfin, je réfléchissais vraiment quand on me disait qu'est-ce qu'on va mettre dans cette émission, et pour moi c'était un peu. Le but c'était un peu que ça soit drôle quoi. Parce que je me disais, on va pas faire une émission pendant une heure et demie où on va raconter les malheurs de nos vies sans être capable d'en rire. Enfin, c'est abominable de faire ça.
Surtout sans critère, si c'est pas tout qu'on donne tout d'un coup. C'est un peu intense. C'est un
tour de parole. Ouais, ou la loose ce serait le mauvais mot quoi, c'est sûr.
Oui, voilà.
On va faire une émission sur la dépression.
Oui, voilà. Mais du coup, tu vois, ce qui est drôle, quand même, ce que je trouve fou, c'est que ça. Enfin, pourquoi ça nous fait rire quand même? Tu vois, alors que c'est quand même abominable, quelqu'un qui a ressenti un truc de honte et tout ça, et même là, alors qu'on est quand même ultra bienveillante, hyper gentille et machin entre nous, et quand même, dès qu'il y en a une qui raconte un truc, on rigole quoi.
Oui, parce qu'il y a un truc, moi je trouve que. Moi, les trucs qui m'ont libérée dans la vie, c'est accepter d'être quelqu'un d'assez médiocre qui faisait de la merde, enfin, ou qui se plantait, ou qui faisait des trucs mignons. Ce qui t'apporte les trucs de loose, c'est bah, déjà t'apprendre que la vie c'est plutôt décevant, du coup. Non, mais du coup, c'est s'habituer à un espèce de truc qui est. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'avais vraiment l'impression, à des moments, les trucs qui ont fait aussi que j'ai pu faire des choses un peu publiques ou me mettre en danger devant des gens, enfin, je sais pas quoi, me mettre en scène ou je sais pas quoi, et ben c'est vraiment d'accepter d'être quelqu'un de médiocre et qui allait se planter à des moments, et que ça rend, moi je trouvais que ça rendait hyper fort quoi. C'est aussi pour ça que là maintenant nos looses de collège, j'ai l'impression que elles sont aussi un peu, enfin, elles sont un peu loin et drôles, mais parce qu'on les a acceptées, enfin, cette espèce de, moi j'ai vraiment. Plus j'écoute là les trucs liés à la honte et tout, mais c'est vraiment ce truc là quoi, d'accepter qu'à un moment donné, bah pff, voilà quoi. Enfin, je sais pas, que de toute façon, que t'es une grosse loose ou pas, tu vas t'en remettre et puis bon, bah, voilà. Moi j'ai l'impression qu'elle avait, enfin, je sais pas, elle me pèse beaucoup moins mes looses de maintenant que.
Moi je crois dans le truc de loose, il y a aussi un autre truc, c'est genre la capacité à rire. Enfin, que moi quand je pense à loose, je pense quand même à un truc d'autodérision ou de. Qui va pas. C'est pas genre juste le malheur ou. Enfin,
c'est différent.
Et moi c'est surtout ça qui me. Où j'ai l'impression que j'en ai moins aujourd'hui des looses, mais que celles que j'ai, du coup elles sont vraiment trop drôles pour le coup parce que. Enfin, quand tu racontes, t'as plus l'impression que ça va t'arriver encore des trucs comme ça. Enfin. Je sais pas, il y a un truc de. Et du coup, peut-être que moi, je me vois tout le temps comme un peu trop sérieuse ou je sais pas quoi pour avoir 1000 looses. Et c'est vrai que je pense que j'ai pas 1000 looses dans le sens où je les mets pas en discours pour que ça fasse rire tout le monde ou je sais pas quoi. Mais que les quelques fois où ça arrive, t'es là, ah ouais, quand même, c'est fou. Enfin, c'est.
Dans la loose légère, il y a un peu vraiment le truc où toi-même, tu t'en fais un. T'en fais des caisses sur quelque chose, mais ouais, par rapport à tes attentes ou par rapport à ce que t'aimerais être ou faire ou représenter, en fait, ouais, ça peut marcher vite.
En fait, les moments de loose, en tout cas les looses qui font franchement rigoler comme sûr. Ça, c'est des moments où on n'a plus le contrôle sur notre corps ou des fois sur notre parole. Mais j'ai l'impression que c'est la cassure dans le rythme qui est attendu ou dans ce qui va se passer. Et soudain, ça bascule complètement. Et moi, je sais pas, peut-être le comique vient de, ouais, du fait de casser quelque chose qui allait se passer.
Ah, les gens qui assument leur loose ont forcément un truc d'empathie. Enfin, je sais pas comment dire. De... Plutôt, je vais rechercher les losers encore aujourd'hui. Pas les losers ou tout merde, mais. Et plutôt, je vais avoir envie que ce contrôle d'assurance. Finissent par loser, tu vois. Mais... Et justement, j'ai pas rigolé de la chute de tout le monde, mais peut-être de ceux qui se la pètent le plus. Et est-ce que c'est pas valorisé maintenant d'être des losers? C'est genre. Enfin, les gens les plus cool de maintenant, je trouve, c'était les losers du collège.
Non, ça
c'est
pas vrai.
Non.
Ça dépend.
Ah ouais.
C'est
bien de se le raconter.
Non, je voulais le raconter.
Et rebonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Voyelles sur Canal Sud. Comme vous l'aviez peut-être pas tout à fait compris, c'était donc un montage qui était un extrait d'une réunion de préparation de cette émission sur la loose. Et donc du coup de ces débats animés finalement autour de qu'est-ce que la loose. Et tout de suite, comme on a très envie d'en connaître d'autres, d'en savoir plus, un appel à la loose.
Voilà, du coup, alors c'est le premier volet. Il y aura un deuxième volet en janvier, le 10 janvier. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer vos looses. Alors, soit vous envoyez un petit enregistrement, soit vous pouvez les envoyer par mail et on les lira en direct. Alors, le mail, c'est voyellefm@riseup.net, voyelle avec un S. Voilà, du coup, n'hésitez pas à les envoyer et puis nous, on les diffusera.
Alors, je vais revenir sur la discussion qui est diffusée dans le montage. Et il y a une espèce d'ébauche de typologie de la loose qui est ressortie, en fait, de ces discussions. Alors déjà, on a eu une première catégorie qui était la loose technique en début de diffusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, on peut rajouter cette catégorie. Mais du coup, on a trouvé deux grandes catégories avec des sous-catégories. Donc la première grande catégorie... Pardon. L'hiver, tout ça, la maladie. La première grande catégorie, c'est la loose ponctuelle. Donc c'est une loose voilà, qui arrive de temps en temps. On va avoir la loose verbale dans les looses ponctuelles. Donc par exemple, faire un lapsus. On va avoir la loose physique, comme quand on tombe de sa chaise, quand on rate sa bouche avec la cuillère, tout ça. Et ensuite, dans les looses ponctuelles, on va avoir la loose intellectuelle. Ben, ça, c'est quand on dit une grosse connerie en public, par exemple. Voilà. Et deuxième grande catégorie, on va avoir la loose chronique. Alors là, ça va être plutôt une loose qui est liée à une oppression et donc à une identité, à une position sociale. Et ça peut être aussi une loose liée au vécu. Voilà. Donc c'est pas le vécu ou l'oppression en elle-même qui est une loose, c'est ce qui se passe à cause d'eux et les événements répétés qui en font des looses chroniques. Et du coup, ça donne des insécurités personnelles, des insécurités psychologiques, tout ça, qui sont souvent le fruit des premières catégories de loose chroniques, donc des oppressions et du vécu. Et chacun, chacune a ses looses chroniques, en fait. Mais les looses chroniques, ça peut très bien être politique, et c'est pas juste une question individuelle. Voilà. Bon, cette typologie, c'est juste des idées, c'est un début de réflexion, il y aura sûrement une suite dans le deuxième volet.
Surprise par mon père, avec le garçon que je préfère. Cela n'a pas eu l'air de lui plaire. Maintenant entre nous deux c'est la guerre. Papa tu as un sale caractère. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. De 20 cm mes robes car je peux me le permettre. Pourtant je dois bien le reconnaître, quand je passe trop d'hommes sont aux fenêtres. Ma mère ne veut plus que je les mette. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. C'est bien ma veine, y'a la grève du métro. Encore si le temps était au beau. C'est le déluge, qu'est-ce qui tombe comme eau. On peut dire que je n'ai pas de peau. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Du collège on va me renvoyer. Je ne fais rien à ce qu'il paraît. Il va falloir choisir un métier. Je n'aime rien faire, je n'aime que chanter. Mais on m'a dit que c'est très encombré. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Oui, on m'a dit que c'est très encombré.
Décidément.
Voyelle.
Alors moi, quand j'étais petite, je devais avoir 12-13 ans. Et il y avait des amis à mes parents qui devaient venir manger chez moi le soir. Et puis, dans leur ces amis-là, il y avait une fille qui était un peu plus vieille que moi, qui devait avoir 16-17 ans. Et du coup... Oh, pardon. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais toute la journée, je me suis entraînée à répondre à la question que je pensais que cette fille allait me poser, qui était « Et toi, est-ce que t'as tes règles ?» Alors moi, toute la journée, j'avais répété... Voilà, qu'est-ce que j'allais lui répondre, nanana, tout ça. Et puis le soir arrive, on a fini de manger, tout ça, on va se poser dans le salon. Et là, elle me parle, j'entends pas très bien, et du coup, je comprends qu'elle me demande est-ce que j'ai mes règles. Et là, je me mets à lui répondre, à expliquer que non, pas encore, mais que je pense que ça va pas tarder, mais qu'en même temps, ma mère a eu ses règles tard, du coup, voilà, peut-être que moi aussi j'aurai mes règles sûrement tard, mais bon... c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Et là, en fait, elle me regarde bizarrement tout le long. Et quand j'ai fini, elle me fait... Mais je te demandais pas ça. Je te demandais juste si tu voulais jouer à la Game Boy.
Et vous écoutez encore Voyelle sur Canal Sud 92.2.
Et on a encore écouté une super loose. Et juste avant, on a écouté un morceau de Violaine, J'ai des problèmes décidément.
Donc maintenant, on va enchaîner sur une petite chronique. Donc moi, j'avais envie de parler d'une série qui s'appelle One Mississippi et qui est une série qui est vraiment bien pourvue en loose. La première saison, elle est sortie en 2016 et la deuxième cette année. Et cette série est écrite et partiellement produite par l'actrice qui tient le rôle principal qui s'appelle Tig Notaro. Donc Tig, elle a été manageuse de groupe de musique, elle a fait du stand-up, elle a joué dans des séries. Et là, elle a sorti une série partiellement autobiographique qui parle en gros d'une animatrice de radio lesbienne en rémission de cancer du sein, ayant une grave infection intestinale chronique, qui retourne dans la ville de sa famille parce que sa mère vient de mourir. Donc pour la loose, déjà, on est pas mal. La série est chouette pour pas mal de raisons. Ça aborde la lesbophobie, les agressions sexuelles, les relations familiales, le snobisme par rapport aux classes populaires, le racisme, le tout dans des situations plutôt réaliste, hein, avec une construction des personnages fines et leurs émotions aussi sont assez bien montrées. Quand les oppressions sont abordées, elles sont, je trouve, clairement montrées comme systémiques, donc venant de constructions sociales et des hiérarchies qui les régissent. La première saison, elle est axée sur la thématique du deuil, parce que Tig vient de perdre sa mère, hein, et les protagonistes sont montrés dans un moment de grande vulnérabilité. Et la série met en avant des petites choses du quotidien, l'ironie, et puis la dimension parfois grotesque qu'elles peuvent contenir. On a quelques moments de décrochage avec la réalité vécue par Tig qui sont montrés. Quand sa mère vient de cesser de respirer à l'hôpital, elle se demande ce qu'elle doit faire du corps, ou si elle doit le laisser. Et on voit une scène qu'elle imagine, donc ça se passe dans sa tête, hein, dans sa tête, elle part avec le corps de sa mère et tout le monde les salue très joyeusement en disant au revoir. Voilà, donc il y a une espèce de mise en avant de l'absurdité des choses de la vie et puis du coup, de la mort. Et de la réalité des choses dures, elle se retrouve tordue pour en faire ressortir le grotesque. Et une partie de l'humour de la série repose sur ce genre de mécanisme. C'est un des trucs de notre discute sur la loose qui était ressorti en fait, que c'est quelque chose de pas drôle à la base, quelque chose de raté et de douloureux des fois, sur lequel on va jeter un regard nouveau pour pouvoir en rire. On change l'angle de vue pour être capable de percevoir le comique de la situation, et des fois faut bien chercher. Souvent, partager avec d'autres personnes, et donc avoir d'autres points de vue, ça permet de relativiser d'autant plus et d'en rire plus facilement. Bon, après, par rapport à la thématique de la loose, comme j'y pensais beaucoup, je me suis mise à faire des liens plus ou moins tirés par les cheveux. Par exemple, le deuil, c'est la perte. Et la loose, c'est aussi la perte, littéralement, quand on traduit de l'anglais. Donc quand on a la loose, on dit au revoir à une partie de soi qu'on imaginait réussir à faire un truc, réussir à garder le contrôle et à tenir debout. C'est une perte de soi, et dans le deuil, on perd quelqu'un, et aussi toute une partie de soi. Donc un deuil, ce serait comme une espèce de loose ultime. Donc Tig, c'est pas la seule à avoir la loose dans la série. On retrouve une figure de loser qui est le personnage de son frère. Il a la quarantaine, il est célibataire, il vit à l'étage de la maison familiale. On a quelques scènes qui montrent qu'il est perçu comme un loser, notamment par Tig. On la voit le juger sur le manque d'avancement des travaux de son appart dans la maison et sur le bordel chez lui. Et aussi sur le fait qu'il fait il a des activités de geek slash beauf, alors c'est ce qu'elle juge elle, hein, comme participer à des reconstitutions de batailles de la guerre de sécession. donc cette espèce de snobisme par rapport à des pratiques de culture populaire, est montré de façon critique à plusieurs reprises dans la série, et sans faire l'économie d'une critique du racisme et du sexisme qui peuvent, d'un autre côté, y être présents. Le frère de Tig, il est aussi perçu comme un loser parce qu'il est prof d'histoire dans un lycée. Et on sent que sa famille, plutôt intello et classe aisée, elle aurait eu d'autres attentes quant à sa carrière. Donc c'est un loser à la fois par rapport aux attentes de la société. Donc il est célibataire, il vit encore chez ses parents, il est en surpoids. Et aussi dans la perception que sa famille a de lui. Et en fait, il y a pas mal de séries qui présentent des personnages de losers, et je dirais même qu'ils sont centrés sur la lose, qu'on retrouve en fil conducteur, avec plusieurs catégories de lose représentées selon les séries. Par exemple, dans la série Shameless, raconte la vie d'une famille nombreuse et pauvre de Chicago, donc pour la version de la série qui vient des États-Unis. Et eux, ils ont la lose sociale, et c'est présent partout dans la série. À chaque saison, on se dit qu'il ne peut pas leur arriver des plus grosses merdes, et à chaque fois, ça va plus loin. Et leurs situations sociales et familiales sont mises en avant pour expliquer qu'ils galèrent à ce point dans la vie. Donc là, il y a une critique, même si dans cette série, elle est assez minime. La restriction des choix de vie qu'ils ont dû à l'appartenance aux classes populaires, c'est bien mis en avant. Et par exemple, on voit un des frères échouer à l'université, malgré son niveau scolaire et intellectuel très élevé. Donc c'est un peu la série qui dit l'égalité des chances, lol. Voilà. Après, on a d'autres séries, donc sur la thématique de la loose sentimentale, on va avoir Insecure, qui est récente aussi, qui date de l'an dernier, je crois. C'est sur une meuf noire qui vient de se faire larguer, et on voit, là pour l'instant il y a deux saisons, on voit tous les choix très discutables qu'elle fait à cause de son manque d'estime d'elle-même, hein, et toutes les couilles qui lui arrivent dans la vie, quoi, voilà. Aussi, plus ancien, il y a eu Malcolm, dont les ressorts humoristiques reposent très très souvent sur des histoires de lose, alors soit dans des situations bien précises, donc des lose ponctuelles, soit dues à la classe sociale des personnages, parce que la série parle d'une famille nombreuse et plutôt pauvre. Autre série, My Mad Fat Diary, c'est centré sur Ray, une ado qui est grosse et qui sort d'HP au début de la saison 1, donc la série parle de haine de soi et de grossophobie. En fait, il semblerait que la culture populaire représente beaucoup la lose. Et les séries que j'ai mentionnées sont des séries que j'ai personnellement trouvées plutôt sensibles, plutôt intelligentes et drôles. Et ce n'est pas le cas de toutes les séries mettant en scène des personnages de losers. Si on prend Big Bang Theory, qui s'appuie énormément sur le fait que les personnages principaux sont des losers, ça devient problématique. Les personnages masculins, ils ont tous des emplois bien rémunérés, des statuts sociaux valorisants, donc ils sont chercheurs, ils sont scientifiques, ils sont ingénieurs, et leur lose est donc toute relative du fait de leur intégration dans la société. Ensuite, la série se moque vraiment de ce qui fait d'eux des geeks. Il n'y a aucun recul sur les normes sociales et sur leur absurdité, on est censé rire de leur lose au premier degré. On se moque directement du fait qu'ils soient par exemple fans de Star Wars ou pour certains qu'ils aient des comportements sociaux inhabituels. Les autres séries, elles comportent une dimension critique dans le sens où elles amènent à réfléchir au moins un petit peu sur le fonctionnement de la société, sur les dynamiques de domination, les pressions de la norme. Mais là, on est essentiellement sur du « Ah ouais, ils sont trop bizarres !» Voilà, donc on a là une espèce d'appropriation culturelle de la lose, en fait, dans le sens où c'est fait sans recul par des gens qui prennent une image superficielle qui se font d'une culture pour vendre leur merde en insultant et moquant au passage les personnes qui seraient vraiment investies dans cette culture. Les cultures alternatives, pour la plupart du temps, elles sont récupérées, lissées, adaptées à la vente au plus grand nombre, vidées de leur sens, de leur pouvoir de remise en question des normes. Et puis après, le rock, le punk, le féminisme, et bien le capitalisme et la culture de masse se sont attaqués à la lose. Bon, c'est probablement pas récent. On peut se dire que déjà en vendant des fringues qui ont l'air usées et des t-shirts anarchie, le mouvement était bien lancé. Et maintenant, bah, on peut trouver des casquettes losers, par exemple. Bah, un des effets de tout ça, c'est que les vrais losers, au sens social du terme, ils ont même plus la possibilité de se rassembler derrière un terme qui est revendiqué par des personnes qui sont bien insérées, qui ont un fort pouvoir d'achat, qui sont blanches, qui sont minces. En fait, tout le monde peut être une loseuse, un loser, on est tous et toutes égales et les hiérarchies sont effacées. Donc on va plus à Emmaüs parce qu'on n'a pas de thunes, on y va parce que c'est trop second degré de se saper des années 80. Et on y va comme pour se distinguer de la masse qui s'habille chez Pinky. Et un jour, Pinky vendra des t-shirts vagin vigilant. Bon, j'arrête. Revenons à la lose. Donc peut-être que son omniprésence dans les séries est là pour nous rassurer dans un monde où nous sommes poussés à nous voir comme des loseuses, où les attentes qu'on nous pousse à construire sont inatteignables. Peut-être que ça nous détend un peu face à toutes les pressions sociales de voir d'autres personnes qui n'y arrivent pas très bien. Ce relativisme n'est pas forcément une mauvaise chose, même si là je pense qu'il l'est, s'il nous aide à nous sentir mieux et s'il critique l'ordre établi et met en avant son absurdité. Et pour finir cette chronique, je vais citer Daria. Donc Daria, c'est vraiment la perso chérie de la loose lycéenne. Et là, elle nous illumine de sa sagesse face à la loose. Donc je cite. Et rappelez-vous, il n'y a aucun aspect, aucune facette, aucun moment de la vie qui ne puisse être amélioré avec de la pizza.
Mon fiancé m'avait juré de ne jamais m'abandonner. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi il est déjà si loin de moi. Le jour de mon anniversaire, je pense à ceux qui ont gâché ma vie. Le jour de mon anniversaire, je pleure toute seule dans mon lit. À l'école primaire, les professeurs me regardaient de travers. Ils n'étaient pas fiers de mes progrès scolaires. Mes camarades de classe me faisaient des grimaces. Ils se moquaient de moi, me crachaient dessus parfois. Le jour de mon anniversaire, je pense à ceux qui ont gâché ma vie. Le jour de mon anniversaire, je pleure toute seule dans mon lit. Mon père était très méchant. Il m'appelait la bossue et me frappait tout le temps. Ma mère était malade et nerveuse. Toute la journée en peignoir, elle voyait du noir. Seule ma sœur était une grande créatrice. Elle faisait des vêtements en forme de cicatrices. Et si mon frère qui n'est pas né avait voulu être dentiste, moi j'aurais... moi j'aurais trouvé ça triste. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la.
Voyelle.
Premier jour de fac. C'était la fac du Mirail. Du coup, il y a des grandes, grandes coursives où il y a des toilettes qui sont ouvertes sur les coursives, où il y a des milliers d'étudiants qui viennent fumer leur clope et passer faire leur pause. Et du coup, il y a des longues queues pour aller aux toilettes. Qui sont, c'est des toilettes turques. On dit des toilettes turques. Je ne sais pas s'il y a un autre mot. Du coup, moi, je me mets, je vais dans les toilettes, hop, je ferme la porte. Je me baisse pour faire pipi. Bon, je me baisse du côté, je regarde le mur, quoi, bon. Même si apparemment, on ne se met pas comme ça. On se met dans l'autre sens, mais c'est ce jour-là que j'ai compris que c'était pas le bon sens. Hop, je fais ma petite affaire, touc-touc, pipi, hop, je remonte mon pantalon. Je me retourne et la porte était grande ouverte. Avec tous les étudiants qui me venaient voir mon cul en train de faire pipi. Voilà, du coup j'ai essayé de partir avec dignité, mais je pense que je ne suis plus revenue à la fac après ça et que j'ai fait mes études à distance. Vous écoutez toujours Voyelle sur Canal Sud de 92.2. On a écouté une loose d'une personne anonyme que nous ne reconnaissons pas. Et juste avant, on a écouté un morceau des Brochettes, le jour de mon anniversaire.
Et ça va être bientôt un peu le dernier moment de l'émission. Et pour finir plus tranquillement, peut-être un peu moins drôle aussi, on va écouter une lecture. Alors, J'ai lu des extraits d'un livre écrit par Michel Tremblay. Il est québécois. Ces bouquins-là, ils ont été écrits au début des années 2000. Et c'est les carnets de vie de, d'une personne qui s'appelle Céline Poulain. Il y a le cahier noir en premier, le cahier rouge, le cahier bleu. Et donc, elle est serveuse à Montréal, plutôt de nuit, dans les années 60. Et donc, c'est à la fois sa vie, et puis il y a plein de personnages avec qui elle est en lien. Moi, ça m'a fait du bien de lire ces bouquins, déjà parce que toutes les personnes, tous les personnages qu'il y a, c'est des personnes qui sont minorisées, quoi, socialement. Et du coup, déjà, ça fait du bien. Après, plus précisément, là, j'ai pris des extraits qui sont au début du cahier noir. C'est le premier de ces cahiers. Et c'est vraiment un cahier de la loose. Quand elle commence à l'écrire, Céline, elle est mortifiée parce que... justement, je vais peut-être pas vous le dire, c'est du suspense. Mais en tout cas, il y a tout un jeu d'écriture justement autour de ce suspense. On sent qu'il s'est passé quelque chose de loose pour elle, mais elle veut pas nous le dire. Et en même temps, elle nous l'annonce. Et tout le bouquin, il est tourné autour... Enfin, il est construit autour de ce suspense-là. Et il y a... un peu de la loose en deux sens, c'est que d'un côté, on sent que ce qui s'est passé pour elle, là, c'est l'événement dont elle veut nous parler, mais dont elle n'arrive pas à nous parler. Il n'est pas très grave, mais on sent qu'il a remué et qu'il est hyper honteux et qu'il met plein de choses en jeu. Et du coup, il y a un peu ce double aspect-là. Et puis aussi, elle insiste vachement sur le fait que l'écriture, ça permet un peu de transfigurer des vécus. Et donc là, ce dont elle veut nous parler dans son carnet, c'est honteux, c'est remuant. Mais par l'écriture, en fait, elle donne à ces vécus-là un peu comme une certaine légitimité ou une certaine... ça devient comme quelque chose d'important. Et je trouve que c'est ça qui est beau quand on lit, parce que du coup, ça donne de la légitimité à des trucs qui sont un peu tout pourris dans nos vies. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu le début de ce livre-là et j'espère que ça vous donnera envie d'aller lire la suite. Bonne écoute.
Le cahier noir, un texte de Michel Tremblay. Première partie descente vers les ténèbres. 25 janvier 1966. La honte est une bête qui possède plusieurs têtes. Je le sais depuis mon enfance par la force des choses, à cause de ce que je suis. Et celle qu'elle m'a montrée ce matin était particulièrement mortifiante. Non pas que je considère que je n'ai pas mérité ce que je n'oserais pas appeler ici mon châtiment, ce n'en était tout de même pas un, mais disons cette simple punition ou cette pénalité, le prix à payer, je suppose, pour m'être laissée une seule fois tenter par les pièges de la vanité. Après tout, j'ai couru après, tant pis pour moi. J'ai voulu patauger dans une eau qui m'était étrangère, risquer un œil sur un monde aux antipodes de celui que je connais, qui dépasse de loin mes capacités, mes goûts, et l'humiliation qui en a découlé, aussi insignifiante fut-elle pour les autres, aussi anodine, m'a jeté, moi, dans des affres si cuisantes que seule l'écriture que j'entreprends en ce moment pourra peut-être m'en purifier. Me confier à la page blanche, me confesser de mon ridicule, représente ma seule planche de salut, comme d'habitude. M'accuser moi-même, me défendre, me condamner ou non. Et à quoi? Pour une si grande niaiserie. Mais les niaiseries ne sont-elles pas ce qui est le plus difficile à surmonter parce que justement, toute forme d'intelligence en est absente. M'exorciser de mon manque d'intelligence et de jugement, voilà ce que je m'apprête à faire ici. Je prendrai le temps qu'il faudra pour analyser tout ça, essayer de le comprendre, me l'expliquer par écrit, parce que mes idées sont pour le moment plutôt confuses. Mais il aurait peut-être fallu que je commence par me présenter. Dire qui je suis, en gros, sans trop insister sur les détails. Que mon nom est Céline Poulain, que j'ai 20 ans, que je travaille depuis 2 ans comme serveuse dans un restaurant situé au coin des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine, le Select. Célèbre pour ses hamburger platters et sa faune bigarrée des fins de soirée. Que je suis malgré tout désespérément ordinaire et discrète, au point où on peut très bien ne pas se rendre compte que j'existe. Je sais très bien que c'est faux, alors pourquoi est-ce que j'écris ça? Je suis discrète, c'est vrai, mais on ne peut pas ne pas se rendre compte que j'existe quand même. J'ai parfois l'impression d'avoir passé une grande partie de ma vie avec un sac de papier sur la tête, et que même les clients les plus assidus du restaurant ne me reconnaîtraient pas s'ils me croisaient dans la rue sans mon costume de serveuse. Ils connaissent mon physique, mais je suis convaincue qu'ils ne connaissent pas vraiment mon visage. Je suis une ombre insignifiante qui se faufile entre les tables. Une paire de mains qui distribue sans jamais se tromper ni rien renverser des victuailles trop grasses.
que mes clients commandent non pas parce qu'ils aiment manger, mais parce qu'ils ont faim, et que le Select est l'un des restaurants les moins dispendieux du centre-ville de Montréal. Là, on mange beaucoup pour peu, et les guidounes de la main, les travestis, les booms et autres créatures de la nuit viennent s'y réfugier quand il fait froid. Entre deux clients, entre deux bitcheries, entre deux mauvais coups. Ils viennent aussi s'y réfugier l'été à cause de l'air climatisé. En août, vers 2h du matin, quand l'humidité est à son comble, on peut dire que les masques tombent, littéralement. Ou plutôt, coulent et aboutissent en taches pâteuses et bariolées sur des Kleenex pourtant destinés à un tout autre usage. Les fermoirs de sacs à main claquent dans l'éclairage au néon, les poudriers, les pinceaux, les bâtons de rouge à lèvres. Les boîtes de maquillage sont étalées en vrac sur les tables. On entend des jurons obscènes, des moqueries vicieuses. Ces dames étirent le plus longtemps possible leur coke en se refaisant un visage, puis c'est le retour au travail, au trottoir, à la chaleur qui tue et à l'odeur des poubelles qui fermentent dans la nuit. L'hiver, bien sûr, nous sommes un refuge contre ce que la grande Paula de Joliette appelle si joliment la congélation des pôles. Elle dit d'ailleurs à qui veut l'entendre « J'ai besoin de mes deux pôles pour travailler. » La tête pour jouer aux pompiers, le cul pour éteindre le feu. Si on a un des deux gelés, je suis faite. Souvent, à la mi-février, quand le mercure tombe sous zéro, je peux pas m'empêcher d'admirer ces travailleurs et travailleuses de la nuit qui arrivent à garder leur bonne humeur malgré les engelures et les grippes carabinées. La duchesse de Langeais, qui ne travaille pas avec eux, se contentant de les accompagner presque chaque soir, chaperon grotesque et tapageur dont l'audace va jusqu'à porter une perruque par-dessus son casque de fourrure, prétend qu'elle préfère le trottoir l'hiver parce qu'un client qui se tape un froid pareil est vraiment en manque et plus enclin à la générosité. Mais on raconte que la duchesse n'a jamais fait la rue, préférant depuis toutes ces années être la cheerleader des nuits chaudes de Montréal. Je trouve que c'est une belle image. Un travesti qui côtoie toute sa vie la prostitution sans jamais y toucher, par pur plaisir de l'aventure. On dit aussi qu'il vend des chaussures le jour. C'est à se demander quand il dort. Queens and criminal queers, all those beautiful boys. Je pourrais dire aussi que je cache, surtout à mon entourage immédiat, un cliché vieux comme le monde et aussi pesant pour ceux qui en sont victimes. La passion de l'écriture. Je ne m'étalerai pas là-dessus longtemps, c'est inutile et je sais depuis toujours que la seule idée de la waitress écrivain est à mourir de rire. Quand il m'arrive pendant mes breaks de jeter quelques impressions sur le papier en tétant un café pour me garder éveillée, je dis à ceux qui se penchent sur la table, en passant, que j'écris à une cousine éloignée de Charlevoix. La duchesse de Langeais, plutôt difficile à tromper, a insinué à quelques reprises que cette cousine-là doit déjà posséder assez de lettres pour publier un livre de 400 pages. Et elle n'a pas tort, la vieille folle. La duchesse de Langeais est l'un des seuls clients qui prennent la peine de s'occuper un peu de moi. Je pourrais rire que c'est par pitié, mais j'en suis pas sûre. C'est peut-être juste une curiosité naturelle, pour tous les gens un tant soit peu bizarres qu'ils croisent. Je viens de relire ce que j'ai écrit hier. J'ai même tout recopié avec application dans un gros cahier noir à couverture dure, ligné bleu, à la marge d'un beau rouge vif, ce qu'on appelait à l'école un livre du maître. Ce que je m'apprête à écrire sera important pour moi, une vraie première. Je n'ose pas encore avancer le mot « œuvre », mais ça viendra peut-être un jour. Appelons ça pour le moment la confession d'un enfant du milieu du siècle. C'est aussi prétentieux, mais au moins ça contient une dose d'humour. Si je veux pas trop me prendre au sérieux, moi, je veux prendre au sérieux ce que j'écris. Parce que je veux interpréter ce qui s'est passé et comprendre. Le début de mon texte d'hier donne l'impression que je vais rapidement parler de mon humiliation, la régler, m'en débarrasser, alors que ça n'est pas du tout mon intention. Je vais plutôt y aller lentement, avec prudence, suivre les méandres des hasards et des coïncidences qui m'ont mené hier matin au minuscule théâtre des saltimbanques pour arriver à bien saisir pourquoi la petite bombe que j'ai posée moi-même m'a explosé en plein visage. Je veux pas apitoyer sur ma petite personne, je l'ai assez fait dans mes premiers cahiers d'adolescence. Moi, je veux juste savoir pourquoi une fille comme moi se laisse embarquer dans une histoire aussi ridicule avec une fin aussi prévisible. La prétention, encore une fois, non. La volonté de changer de monde, de troquer mon univers de poulet frit et de salade au chou contre la vie plus excitante, plus enrichissante de comédienne amateur? Je ne suis pas sûre que la réponse soit oui. Peut-être simplement un goût d'aventure, de renouveau, de différent, d'étonnant. comme la duchesse, vendeur de chaussures le jour, guidoune la nuit. Tout a commencé quand Madeleine est tombée malade. Pimps and queens and criminals. Tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
Voyelle 92.2 sur Canal Sud. Alors, on a fini notre premier volet sur la loose. Sachez que le deuxième volet, ce sera le 10 janvier et que vous pouvez nous envoyer vos petites histoires par mail. Et on va finir par un agenda des prochains jours.
Des deux prochains jours. C'est un agenda assez... assez court finalement. Demain soir à 19h30 à la maison... Non, c'est pas la maison, c'est l'espace des diversités, au 48 rue de Buisson, c'est ça ?
On a un doute sur le numéro, mais en tout cas c'est ouais. Rue de Buisson.
Ça se voit, ça se voit de loin. Il y aura la projection de La Marcheuse proposée par l'association Griselidis. Il y aura des gens de Griselidis, il y aura moyen de discuter, tout ça, tout ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, La Marcheuse, c'est un film sur une prostituée chinoise à Paris. Voilà. J'ai rien d'autre
à dire. Et le lendemain, c'est la journée mondiale...
de lutte contre le sida.
Contre le sida.
Ouais. Contre. Il y aura des stands toute la journée, du coup, à Jean Jaurès. Et le soir, une appel à manifestation à 19h par Act Up.
Et en suivant, à l'Obs, donc pour continuer la journée de lutte contre le sida, il y aura des projections de Cutie Productions.
À 21h, t'as pas dit.
À 21h. C'est Cutie Productions, c'est un collectif de cinéma un peu DIY queer. Ils ont commandé des vidéos auprès de Mickey Blanco. Alors, c'est un rappeur, rappeuse américaine trop classe. Et plein d'autres gens que je ne connais pas, mais j'imagine bien que ça doit être vraiment trop bien. Et voilà. Donc c'est à 21h à l'Obs, 87 rue du 10 avril. Ça fait beaucoup de numéros dans une même phrase.
C'est vrai. Mais on s'y retrouve.
L'agenda est fini. Du coup, vous avez des choses à faire que pour deux jours.
Et dimanche, bah, vous vous démerdez.
Bon courage. Voilà. Bon courage. Samedi ouais. aussi. Hein,
c'est vrai que samedi, on ne sait pas.
Non plus.
Non plus.
Voilà.
On a fini pour cette première, c'est ça ? Vas-y.
Ouais, on peut juste peut-être vous rappeler que vous pouvez toujours retrouver les émissions de Voyelles sur le site de Canal Sud, rubrique Voyelles, ou bien sur le site de Voyelles, vous tapez dans Google. Et encore, si vous voulez... Non, mais parce que je me rappelle plus de l'adresse exacte, c'est Voyelles FM sur WordPress. Et sinon, sur la plateforme Radio Rageuse, vous allez retrouver toutes les émissions de Voyelles et aussi plein d'émissions copines féministes. Donc n'hésitez pas à réécouter tout ça en attendant qu'on se retrouve le 10 janvier.
En direct
pour le deuxième volet de la loose. On ne le répétera jamais assez puisqu'on veut votre participation, vos looses et vos petits mots. Une dernière musique, on va se quitter en musique. Enfin, une musique, c'est peut-être, comment dire, vous allez découvrir, c'est par Sexy Sushi. Bonne écoute et à très bientôt. Bisous.
Salut, bisous.